Monsieur l'ambassadeur Éric Girard, bonjour.
Bonjour.
Quels sont les programmes en cours entre la France et la RCA pour la formation des jeunes?
C'est un sujet fondamental pour nous, puisque je dirais que la jeunesse et l'éducation sont une priorité. Ce n'est pas une priorité depuis peu, c'est une priorité depuis toujours. Et la France essaie d'intervenir tout au long du cursus scolaire, mais également de la chaîne éducative. En termes d'éducation, pour vous donner quelques exemples, nous avons la formation professionnelle. En 2019, on a lancé un grand programme pour réformer l'enseignement technique avec les deux lycées techniques, apporter des moyens, il y a 3 tonnes d'équipements qui vont arriver, et restructurer en lycée de métier, avec l'hôtellerie, restauration, l'usinage, la métallurgie, la mécanique et le transport, l'électricité. C'est vraiment misé sur le côté professionnel. Parallèlement à ça, on soutient des associations comme Don Bosco, qui donne des formations à des jeunes dans le domaine professionnel. Et on a également, pour toute cette frange de jeunesse qui va plus vers le concret, le soutien aux jeunesses pionnières nationales avec un coopérant pour créer un service civil d'aide au développement. Notre travail va aussi dans la structuration de la chaîne. C'est-à-dire on a un programme en faveur de la formation des formateurs. L'idée est de renforcer les enseignants, de leur donner des capacités complémentaires en France et de leur permettre de revenir ici pour former leurs collègues. On en a 30 en ce moment qui sont à l'Université de Bretagne pour travailler dans le domaine des masters et des doctorats. En matière de coopération universitaire, on a 130 bourses. Actuellement, je rappelle qu'en 2015, on avait 50 bourses. On a réouvert pour arriver à 130 bourses en 2019. Et on poursuivra cet effort en 2020. Ce sont des partenariats qui sont anciens. Je vous rappelle qu'il y avait eu un financement de la coopération française dans les années 70 pour créer l'Institut universitaire de gestion des entreprises, l'École normale supérieure et également le laboratoire Lavoisier. Pour finir, je dirais que dans le domaine pour aider la jeunesse, on a aussi le lycée français qui permet d'accueillir 90% des jeunes. Le lycée français sont centrafricains. 90% sont centrafricains sur les 500 jeunes élèves.
Et ces personnes formées, une fois rentrées au pays, pourront encore bénéficier toujours de l'appui de la France?
Alors l'idée n'est pas de faire à la place d'eux, mais bien de travailler en partenariat. Donc plus on arrivera à structurer, plus on arrivera à permettre aux jeunes de se préparer. Il y a à peu près 744 étudiants centrafricains en France aujourd'hui. La formation, c'est, je crois, une chance dans la vie. L'éducation en général, c'est une chance pour celui qui la reçoit, c'est une chance pour une société. C'est aussi une école du vivre ensemble, c'est aussi donner les moyens de comprendre ce qui se passe autour de soi dans le monde. C'est un facteur de réconciliation. Moi, je crois que c'est les moyens aussi de préparer un pays, de donner au pays les moyens de ses forces vives de demain. Et donc, l'ambition que l'on a, ou le projet que l'on a, c'est surtout de permettre au pays d'avoir ses forces vives qui demain vont prendre le relais de ceux qui sont actuellement en place. Donc, le terme de partenariat, pour nous, il est essentiel. Le pays doit pouvoir s'approprier ces personnes et continuer à avancer.
Monsieur l'ambassadeur, dans quel domaine l'Union européenne appuie-t-elle l'ambassade de France ici en République centrafricaine?
Je dirais que la France et l'Union européenne travaillent la main dans la main ici. L'objectif commun, c'est le relèvement du pays. La France intervient sous deux angles. Elle intervient à la fois en tant qu'État, frère, ami, depuis longtemps, ce qu'on appelle en bilatéral, c'est-à-dire d'État à État. C'est un travail qui se fait dans tous les secteurs, je ne veux pas les décrire, mais vous êtes dans l'humanitaire, dans le développement, dans la sécurité, dans l'éducation, dans la culture. Ça, c'est vraiment l'action de la France en tant qu'État. Mais la France intervient aussi en tant qu'État membre de l'Union européenne. D'abord en contribuant au fonds que l'Union européenne mais en œuvre. Et l'avantage, c'est de pouvoir, pour l'Union européenne, mobiliser des fonds importants pour soutenir des grands projets comme ceux qui sont portés par le fonds Bécou. Et ça nous permet également de travailler avec l'Union européenne dans des projets de long terme, ceux qui vont remettre en place les fondations du pays, des projets qui prennent du temps et des projets plus rapides pour aider la population à s'approprier justement les bénéfices de l'accord de paix, à comprendre ce qui se passe ou à répondre à des situations rapides. Donc, je dirais qu'avec l'Union européenne, c'est un appui mutuel. La France soutient aussi beaucoup le travail de l'RCA en relais de la délégation à Bruxelles lorsqu'il s'agit de plaider, comme on le fait d'ailleurs au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais je crois que c'est ce travail, la main dans la main, cette articulation, cette coopération qui fait qu'on a cette profondeur sur le terrain au profit du pays. C'est vraiment là.
Vous avez parlé de l'accord de paix. On va changer un peu de sujet. Comment appréciez-vous la situation sécuritaire de la RCA 9 mois aujourd'hui après la signature de l'accord entre le gouvernement et les groupes armés?
L'accord de paix qui a été signé à Bangui le 6 février a été un moment essentiel. Pour moi, ça correspond à une véritable bascule entre ce qui était avant et ce vers quoi on va. Certains peuvent le décrier en disant que c'est un énième accord. Certains peuvent dire qu'il n'est pas parfait. Je ne sais pas si un accord est parfait. Mais je rappelle ce qu'avait dit Mme Mogherini. Elle avait dit aucun accord n'est facile à mettre en place ou n'est facile à mettre en œuvre surtout. Et cet accord de paix, on en voit quand même des bénéfices aujourd'hui. Il y a une forme de stabilité qui s'est mise en place, même si la situation reste fragile. On on en est tous conscients. Le gouvernement a respecté l'essentiel de ses engagements. Il faut que chaque partie à l'accord respecte ses engagements. Et lorsqu'il y a encore des débordements, des violations sur le terrain, il faut que ça cesse. Et tous les partenaires internationaux travaillent dans ce sens pour arriver à stabiliser, pour arriver à transformer cet accord de paix en une paix durable. Je crois que c'est quelque chose qu'on a entre les mains. Il faut qu'on y travaille tous ardemment. Et il faut croire en ce qui peut se faire. Il faut croire au lendemain, comme je dis. Sinon, il faut tout arrêter.
Vous dites que chaque partie doit respecter ses engagements, mais qu'est-ce qui doit être fait pour ceux qui ne respectent pas ces engagements pour que l'accord-là puisse être une réussite parfaite pour la République centrafricaine?
Il y a dans l'accord de paix deux articles fondamentaux. Il y a un article 34 qui prévoit des mécanismes, il y a un article 35 qui prévoit des sanctions. Je crois qu'il y a un temps pour le dialogue, il y a un temps pour des sanctions. Ces sanctions doivent être déclinées, doivent être connues de tous et doivent être respectées. Je crois qu'il faut qu'on travaille à la fois dans l'ouverture, dans le dialogue et dans le respect des règles. Donc il faut que tout ça puisse se mettre en œuvre.
Monsieur l'ambassadeur Éric Girard, pourquoi la France a-t-elle soutenu la reconduction de l'embargo sur les armes à destination de la République centrafricaine?
La France n'a pas soutenu la reconduction de l'embargo. La France a travaillé à l'assouplissement et a soutenu cet assouplissement en tant que plume. Vous savez, la plume au Conseil de sécurité, c'est lorsqu'un membre propose le texte qui va être voté. Et on a proposé l'allègement, l'assouplissement de l'embargo, justement pour qu'il y ait une évolution. Et c'est d'ailleurs ce qui a été voté. On n'a plus l'obligation de faire des demandes au comité des sanctions pour faire venir des armes. On considère maintenant que pour toute une partie d'armes, les choses sont réglées. Le gouvernement fait une notification. C'est déjà une avancée importante. L'embargo, c'est quelque chose qui est technique, qui est devenu politique. C'est l'accompagnement, je dirais, armé, l'accompagnement maîtrisé du réarmement. C'est pas une fin en soi. C'est pas un dogme, ni pour la France, ni pour les autres pays. Et d'ailleurs, il y aura une clause de rendez-vous en janvier. Et pour pouvoir avancer, on a mis en place ce qu'on a appelé les benchmarks, c'est-à-dire des critères objectifs. L'une a la possibilité de sécuriser les armes, de les stocker, la possibilité de faire la traçabilité, etc., etc. Et toute notre coopération française, mais aussi internationale, des partenaires, vise à aider le pays à se préparer et à aller vers ça. L'objectif est bien sûr de tendre à une levée de l'embargo. Voilà, mais dans les meilleures conditions possibles pour tout le monde. Et encore une fois, les armes ne font pas que la différence. Et une armée, c'est un tout. C'est de la formation, c'est de l'entraînement, c'est bien sûr de l'armement, c'est de la logistique, c'est tout ça. C'est à ça qu'on travaille tous.
Les élections en République centrafricaine sont prévues l'an prochain, précisément le 20 décembre, selon le chronogramme de l'Autorité nationale des élections. Quelle sera la contribution de la France pour la réussite de ces scrutins?
Alors, la France soutient totalement le processus électoral et les élections, et la tenue des élections, pour qu'au 20 décembre, on soit au rendez-vous, comme d'ailleurs l'Union européenne, comme les autres partenaires de la RCA. On suit activement la préparation de ces élections. C'est un grand rendez-vous pour la consolidation du processus démocratique et la stabilité du pays. Les modalités de notre engagement, aujourd'hui, ne sont pas totalement définies. Il est clair qu'on contribuera au Basket Fund du PNUD. On peut aussi faire un soutien d'expertise si c'est demandé. En tous les cas, le président Touadéra a saisi officiellement par un courrier le président Macron et on verra ça avec bienveillance et on participera le mieux possible. Je n'oublie pas non plus que dans les fonds qui sont versés par l'Europe, la France contribue aussi en tant qu'État membre.
Est-ce qu'on peut déjà estimer un pourcentage de la contribution de la France?
Non, c'est trop difficile. Ça va se faire en début d'année. Ça se fera en début d'année. En 2015, de mémoire, la France avait versé 500 000 euros en direct, plus ses contributions européennes, donc ça fait plus.
Monsieur Éric Girard, je vous remercie.
Merci.